au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que c'est le mois d'avril et c'est le quatrième mois de l'année. J'ai trouvé une nouvelle raison. Ben oui, ben oui. Écoutez les amis, je pense que Dame Nature, si on peut parler de Dame Nature, je ne sais pas ce qu'il prend. Elle n'a peut-être pas pris ses pilules ou peut-être qu'elle est sur l'acide. Parce que,
Daniel
et Ryu, ça te fait réagir.
Ben, pour le moment, j'ai une amie qui m'a envoyé des photos. Elle a de la neige chez elle.
Non, mais franchement, ce week-end, j'ai sorti le chien en culotte courte samedi. Ah! Et oui. Je l'ai sorti avec une tuque, puis des gants, puis lui avec un manteau hier.
Faut le faire.
Louis de Bernis, toi, pas de vélo encore?
Non, pas de vélo. Il reste au chaud encore. J'attends vraiment qu'on soit au-dessus des 10 degrés.
Mon genre de cycliste. Moi, je suis comme ça aussi. Le vélo, j'admire les gens qui font du vélo l'hiver, mais très peu pour moi. Alors, juste pour vous dire aujourd'hui rapidement, vous doutez que encore jusqu'à mercredi, dans l'est du pays surtout, ça va être plus frais. Il y a encore de la neige par endroits ce matin. Ça va se dégager cet après-midi. Et puis, dans l'ouest du pays, ben il fait beau. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais Manitoba, Saskatchewan, Alberta, même la Colombie-Britannique, même sur la côte ouest, il fait jusqu'à 19 degrés aujourd'hui. C'est pas normal, ça, hein, pour eux autres. Bon, ben justement, vous avez entendu nos chroniqueurs. Louis de Bernis, on parle de quoi aujourd'hui?
Insolite, on va parler du semi-marathon de Pékin. Et pourquoi j'en parle? Parce que des robots ont battu des humains. C'est la première fois que des robots courent et battent des temps humains. Et puis, on parlera aussi d'un poisson d'avril qui devient réalité. IKEA avait fait une blague en parlant d'une nouvelle sucette, un suçon au goût boulette de viande de IKEA.
Ouais.
Eh bien, la compagnie Chupa Chups va vraiment commercialiser cette saveur.
N'importe quoi. Daniel?
Ben moi, c'est pas n'importe quoi. Parce que pauvre Louis. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est des événements qui arrivent. Ça nous arrive des fois de voir dans le journal, tu sais, des zodiacs dans le milieu de la mer avec des gens qui sont portés disparus en mer, qui veulent quitter clandestinement leur pays. Et puis, un très bon article dans le Courrier international de février dernier. Justement, on nous amène au Sénégal. Parce que dans cet article, on nous entretient sur ceux qui restent. Hein? Il y a les disparus, mais ceux qui restent sur Terre, mais on se souvient d'eux. Alors, ça aurait été, j'ai trouvé ça, c'est un sujet sensible. Puis on oublie qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres aimés au milieu de l'Atlantique, entre autres.
Alors, il y a des tragédies, c'est épouvantable. Oui. Aujourd'hui, donc, c'est le 20 mai, et pour ne pas me tromper, je vais revérifier. Ben, pardon, 20 avril, oui, ben oui, ça fait,
mon Dieu. Ça fait chaud, moi aussi, hein?
Oui, oui. On est quand même le 110e jour de l'année. Et je dirais pas le reste de la phrase parce qu'il y a une auditrice qui aime pas ça que je rappelle que ça va être la fin de l'année bientôt. Bon. Et donc aujourd'hui, c'est le 20 avril. C'est, quelle année? 1534. C'était Jacques Cartier qui quittait Saint-Malo. C'est aussi aujourd'hui, bon, c'est pas une date aussi agréable, mais en 1889, c'est la naissance d'Adolf Hitler. Ouais. Et en 1999, c'était la fusillade à Columbine. Vous vous rappelez de ça, l'école de Columbine à Littleton au Colorado? Je le souligne parce que ceux qui me connaissent, ceux qui ont connu un petit peu ma carrière, j'ai été envoyé là pour couvrir l'événement pour le téléjournal, la radio et à peu près tout. Et c'était... Je trouve que c'est un événement marquant de ma carrière. Ça a été très, très, très difficile à faire. Bon, et puis, ça me tentait de terminer ça, cette petite ouverture avec quelque chose de rigolo. Bien, aujourd'hui aussi, c'est la journée, c'est le 20 avril, la journée internationale du pot, du cannabis. Alors, je pense qu'on va faire comme Céline Dion, puis on va danser. Que rien ne nous retienne.
rester droit parce qu'on se le doit. Pour tous les six bambus, tous les sans voix ni loi, parce que c'est inutile, parce que toi et moi, nos visages, nos bras, malgré tout, puisqu'on vers hostile, une île dansant au-dessus des abîmes, aux arêtes des cimes, tournons puisque le monde ne tourne plus rond.
Une chanson composée par Jean-Jacques Goldman. Puis, tu sais, on entend à la fin un petit clin d'œil à « Pour que tu m'aimes encore », qui était le plus grand succès francophone de Céline Dion. Belle chanson, belle petite balade. On est bien content qu'elle soit de retour, cette Céline. Aujourd'hui, dans les unes d'à peu près tous les quotidiens, mais je me suis plus attardé aux devoirs et aux droits dans l'Outaouais, c'est que le Québec est sur le qui-vive alors que les inondations printanières s'intensifient. La situation est particulièrement critique en Outaouais, à Fort-Coulonge, je viens de déclarer l'état d'urgence. À Mansfield et Pontefract, une centaine de résidences ont reçu l'ordre d'évacuer alors que le lac Coulonge, lui, approche des seuils majeurs. À Gatineau, 164 maisons sont menacées par la crue la plus importante que prévue. Par contre, le froid stabilise la situation à Laval et à Montréal. La pointe des eaux, quand même, est attendue aujourd'hui même en Outaouais. Des digues de protection protègent les secteurs vulnérables en attendant le pic du débit des rivières prévu pour le milieu de la semaine. Alors, la première ministre Christine Fréchette a rappelé hier que ces épisodes-là font désormais partie de la réalité climatique, nécessitant une adaptation rapide de l'aménagement de notre territoire. Ah oui, c'est la crue des eaux, pas facile. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il fasse plus froid pour quelques jours. Ça va peut-être calmer les ardeurs des cours d'eau. La Presse Plus, aujourd'hui, le ton monte entre Téhéran et Washington à 48 heures de l'expiration du cessez-le-feu. L'Iran refuse de participer aux négociations prévues au Pakistan, exigeant d'abord la levée du blocus naval états-unien. De son côté, Donald Trump menace de détruire les ponts et les centrales électriques du pays si aucun accord n'est conclu. Cette impasse, aggravée par la saisie d'un cargo iranien par la marine des États-Unis, fait bondir les prix du pétrole de 8 % ce matin. Dans le Devoir, début de série électrisant pour le Canadien, Juraj Slafkovský a joué les héros hier soir à Tampa en signant un tour du chapeau historique. Ses 3 buts en avantage numérique, dont celui de la victoire en prolongation, permettent à Montréal de s'imposer 4-3 contre le Lightning. Le club mène ainsi la série 1-0 avant le deuxième match prévu mardi soir, donc demain soir, en Floride. Et puis, le premier ministre Carney, dans la Presse Plus, change de ton face aux États-Unis. Nos liens économiques étroits sont désormais une faiblesse. Dans une vidéo intitulée « La ligne de conduite », il affirme qu'il est illusoire d'espérer un retour à la coopération avec Washington et prône une diversification immédiate de nos exportations. Alors que l'opposition conservatrice réclame un accord commercial rapide, M. Carney mise sur le commerce interprovincial pour protéger les secteurs de l'acier, de l'automobile et des tarifs douaniers états-uniens. Et puis, par actualité aussi aujourd'hui, les coop de l'information d'hier, la chroniqueuse Marisol Saint-Onge, que vous connaissez bien certainement, soulève la question de la sous-représentation des personnes en situation de handicap à la télévision québécoise, notant que cette proportion de la population est passée de 16 % en 2022 à 21 % aujourd'hui. Mais que des chaînes spécialisées comme Amitélé proposent des contenus dédiés, l'auteur craint une forme de ghettoisation médiatique où les enjeux liés aux limitations fonctionnelles ne sortent pas d'un espace réservé. Elle souligne que si des initiatives comme l'émission Espace réservé ou la présence de comédiens neurodivergents dans des séries populaires existent, elles demeurent des phénomènes isolés. Marisol Saint-Onge compare cette situation à celle des personnes racisées qui, malgré l'existence de chaînes thématiques comme Natif, bénéficient désormais d'une visibilité plus accrue sur les chaînes généralistes. Pour favoriser une véritable inclusion, la chroniqueuse appelle à une intégration naturelle du handicap dans les talk-shows, les publicités et les fictions, ainsi sans que le sujet ne soit l'unique angle de traitement. Radio-Canada, hier à Montréal, l'organisme Diogène transforme la lutte contre l'itinérance grâce à son programme « Toi d'abord », qui permet à des personnes souffrant de troubles mentaux graves d'accéder directement à un appartement. Contrairement aux approches traditionnelles, ce modèle ne pose aucune condition préalable de sobriété ou de suivi médical, misant plutôt sur l'autodétermination et la stabilité d'un chez-soi, pour favoriser le rétablissement. Les participants qui consacrent 25 % de leurs revenus au loyer bénéficient d'un accompagnement intensif par des professionnels pendant au moins 3 ans. Les données récentes indiquent que près de 60 % des personnes en situation d'itinérance dans la métropole, donc à Montréal, vivent avec un problème de santé mentale, une réalité exacerbée par l'augmentation de la consommation des drogues synthétiques. Depuis son lancement en 2015, cette initiative a permis de loger plus de 570 personnes, affichant un taux de maintien de 87 %. Actuellement, le nombre de personnes sans domicile fixe au Québec s'élève à 12 000, marquant une hausse de 20 % en 3 ans.
Je reviendrai à Montréal. Ce temple bleu, rouge et blanc, j'ai besoin de revoir les gens se rassembler au printemps. J'ai besoin de cette lumière descendue droit de la Sainte Flanelle qui fait rêver tout l'hiver d'une coupe Stanley au Centre Bell. Je veux être fier d'être Québécois, voir le trophée au bout de nos bras et le sourire de ses enfants qui passe l'hiver en espérant. Je reviendrai à Montréal, dans une grande ville en délire, voir des visages qui s'illuminent au défilé rue Sainte-Catherine. Je reviendrai à Montréal, dans ce temple bleu, rouge et blanc. Je reviendrai à Montréal, revoir enfin mes partisans, revoir enfin mes partisans.
On est vraiment dans la nouveauté ce matin. Alors, c'était l'occasion du 50e anniversaire de la chanson emblématique « Je reviendrai à Montréal ». C'est le fils, hein, Jérôme Charlevoix, qui présente une adaptation de l'œuvre créée par son père en 1976. C'était inspiré de sa passion pour le hockey. Alors, c'est belle voix, hein? On reconnaît un petit peu son papa. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel?
Ben oui, on reconnaît tout à fait. Puis moi, en écoutant la fin de la chanson, j'entendais le mot espoir. Mm-hmm. Je reviendrai à Montréal, je reviendrai chez moi et pour voir des visages qui s'illuminent. Mais pour certains, c'est pas le cas. Ouais. Et je vous amène au Sénégal parce qu'il y a des gens qui ont l'espoir de faire une vie meilleure et qui embarquent sur des radeaux, des zodiacs de fortune, des bateaux de fortune, des chalutiers de fortune et qui s'engagent sur l'entreprise l'Atlantique et qui reviennent jamais à la maison. Alors, l'espoir, il y en a plus d'espoir, il y en a, on apprend la mort de ceux qu'on aime. Et je vous parle justement d'enfants qui sont au Sénégal et le titre de l'article, c'est Ceux qui restent. Mmh. Et je vous parle de témoignages de ces enfants-là. Donc, c'est un beau, beau témoignage à part ça. Alors, je commence. Je n'y croyais pas. Ma mère et moi étions dans cette pièce quand elle m'a annoncé la terrible nouvelle. Mon père est perdu en mer. Impossible, inimaginable. Je doutais, je refusais d'admettre qu'il était parti pour toujours. Et c'est ce que raconte chagrinée Sédina, qui est l'aînée de sa famille. Son père, par contre, avait pris les pirogues 5 ans auparavant en direction de l'Espagne. À l'époque, c'est un garçon plutôt, Sédina. Mmh. Alors, à l'époque, le jeune garçon n'avait que 10 ans. Aujourd'hui, il se souvient plus que jamais de ce moment qui allait bouleverser son avenir. Alors, je vous amène, vous, les auditeurs, sur le littoral de Tiaroy-sur-Mer, qui est à quelques kilomètres à l'est de Dakar. Et en avant, ben, c'est l'océan Atlantique. Et on entend de cette plage le bruit des vagues qui semble porter le poids des départs. C'est un quartier qui est célèbre de Dakar et qui porte justement les stigmates de la migration irrégulière. Les conversations entre voisins tournent souvent autour des départs. Alors, les rêves de un meilleur destin, les promesses de travail à l'étranger, les risques des traversées sur l'Atlantique, en Méditerranée ou sur d'autres mers, et les retours incertains. Des femmes et des hommes discutent des moyens de réunir les fonds pour le voyage, économie, micro-activités locales, aussi le soutien de la famille. Et au milieu de ces voix qui cherchent des réponses, ben, y a les enfants. Souvent, ils sont oubliés et pourtant les plus affectés par les décès dans la migration irrégulière. Pour certains enfants, l'annonce survient comme un coup de tonnerre, puis la confusion s'installe pendant plusieurs mois, parfois toute une vie. Sédina, ce jeune homme, réalise au fil du temps l'ampleur de l'absence de son père et il confie « Malgré mon jeune âge, j'avais une relation cordiale avec lui. Il m'emmenait partout. J'ai pleuré la mort de mon père. Mais je peux dire que je suis plus chanceux que ma petite sœur qui n'a pas eu la chance de le connaître. » Et ici, on voit, là, on lit que c'est la petite Kadi, qui a 6 ans aujourd'hui, et qui dit « ben, moi, je connais pas mon père, mais j'ai vu sa photo. C'est ma maman qui me l'a montré et elle m'a dit qu'il est en voyage. » Le regard de Kadi, qui a 6 ans, porte déjà un monde d'innocence et de questions, parce que Fama, sa mère, ne lui a pas expliqué. Elle a le silence, elle s'abstient au silence, et elle dit, par contre, « Je suis obligée un jour de lui dire que son père est en voyage, parce que lorsque ce dernier prenait les pirogues pour l'Espagne, Kadi n'avait que quelques mois. » Elle venait tout juste de naître. Ben, je finirai par lui dire la vérité, de sortir de mon silence, car si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre dans la rue va le faire à ma place. Je vous présente Mustapha maintenant, qui n'ignore pas la vérité. J'ai su qu'il n'était plus en vie le jour où beaucoup de monde est apparu dans notre maison familiale. Certains pleuraient, raconte le jeune garçon de 10 ans. Ce tragique souvenir est plus vif pour Daba, qui lui a 14 ans. Il y a un an, son père entreprenait le voyage périlleux. Daba, c'est une jeune fille. Alors, les mots d'au revoir adressés à elle et à sa mère dans leur chambre, les conseils pour exceller à l'école, la promesse de revenir bientôt après avoir acquis les moyens nécessaires à leurs besoins. Mais elle, Daba, garde tout en mémoire, mais depuis lors, aucune nouvelle de son père, donc, on devine. Avant, c'était lui qui m'aidait dans mes devoirs parce qu'il avait fait les bancs jusqu'au collège. Il me disait que tout serait possible si l'on travaillait, si on y en travaillait. Mais maintenant, ben c'est moi, Daba, qui dois prendre les décisions lourdes, rester sérieuse à l'école, aider mes frères et sœurs à ne pas faire de bêtises, qu'elle raconte évidemment avec un visage triste parce que l'espoir, il a complètement disparu. Il est 12 heures et je vous invite à imaginer, il est 12 heures et le soleil sans merci frappe la plage de Tiaroy-sur-Mer. Et Abdou est assis sur le bord de la plage et à quelques mètres plutôt de l'eau, de l'océan Atlantique. Alors, le 12 février 2012, c'est le jour où le père d'Abdou a quitté Tiaroy vers l'Eldorado espagnol. Jusqu'à ce jour, aucun aucune nouvelle de lui et de ses compagnons. Ben, j'avais 12 ans à l'époque et nous savons qu'il est décédé en mer, regrette Abdou. Dans ses yeux, une étincelle qui hésite entre la colère et la résilience, entre la mémoire et l'oubli. C'est difficile de vivre son absence, mais je n'ai pas le choix. Mais malgré l'absence, Abdou, qui a aujourd'hui 25 ans, il avance et la mémoire de son père devient une force qui porte ses accomplissements. La même semaine où il a quitté Thiers-Roi-sur-Mer, j'ai maîtrisé le Saint-Coran. Je voulais qu'il assiste à la cérémonie de ma remise de diplôme parce qu'il me payait les cours. Pour Sédina et Mustapha, l'amour du père s'est transformé en dévotion envers leur mère et en rêve d'avenir radieux malgré tout. Aujourd'hui, s'il était encore vivant, mon plus grand rêve serait de lui construire une maison. Hélas, vu qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus de ce bas monde, je le ferai pour ma mère. Nous vivons toujours chez mes grands-parents paternels. Ce sera aussi un hommage à mon défunt papa, aussi parce qu'il est mort en mer, en quête d'une vie meilleure pour subvenir à nos besoins. C'est ce que confie Mustapha. Quant à Sédina, son souhait demeure d'accomplir des gestes qui diraient tout l'amour qu'elle porte à sa mère. Mon rêve, c'est de l'amener à la Mecque, de lui construire une maison, de lui offrir des voyages à travers le monde. Face à la perte, la mère demeure le pilier qui soutient tout, même lorsque le quotidien fatigue et que le poids financier écrase le souffle. Son mari est parti à jamais, la mère de Sédina se bat de toutes ses forces pour subvenir aux besoins de sa famille grâce à son petit commerce d'encens. Je subviens à mes besoins. Parfois, si je ne suis pas financièrement stable, je vais prendre de quoi manger chez la vendeuse de repas qui est à côté jusqu'à ce que je puisse rembourser. Parfois, je ne dîne pas, raconte-t-elle, et ça, les yeux lourds d'épuisement. Abdou n'a pas la chance d'avoir une mère présente comme celle de Sédina et de Mustapha parce que chez lui, ce sont, imaginez, les deux parents qui sont absents.
Wow.
Hein? Et il a la charge de son petit frère qui n'a pas eu la chance de connaître leur père. Je me débrouille seule pour me payer une formation. Parfois, quand la pêche est bonne, hein, on est au bord de la mer, de l'océan, parfois, quand la pêche est bonne, je me reconvertis en pêcheur pour avoir un revenu pour financer mes études et subvenir aux besoins de sa famille, explique ce jeune homme-là qui n'en veut pas pour autant à son père d'avoir quitté pour offrir à sa famille une vie meilleure. D'ailleurs, tout dans le contexte de toute ces départs et de ces absences et de ces morts tragiques et de ces disparus, ben il y a depuis 2022 une association sénégalaise de lutte pour la liberté de circulation et la dignité des migrants qui s'appelle Bozafil et qui a instauré une tradition à l'occasion des fêtes de Noël, c'est-à-dire d'offrir un présent à ces enfants dont les parents se sont éteints quelque part dans le désert parce qu'on peut fuir par le désert.
Ouais.
Ou encore dans l'immensité d'un océan Atlantique, Pacifique ou la
dans
mer.
Dans tous les cas, c'est très périlleux.
C'est très, très, très périlleux. Et pour une quatrième édition, en décembre 2025, l'association s'apprête à atteindre le seuil symbolique des 1000 cadeaux distribués. Chaque 25 décembre, au moins 250 enfants reçoivent un présent. Et avant la fête, il y a l'enquête. Cette étape est délicate. Elle est menée par les soins des points focaux et les membres de l'association qui parcourent les quartiers et les villages afin d'identifier les enfants frappés par la tragédie migratoire. Et à ce jour, les autorités sénégalaises ne disposent d'aucune donnée précise sur les profils des Sénégalais qui sont morts sur les routes migratoires, parce que c'est la migration irrégulière. Malgré ces obstacles, le secrétariat d'État travaille en partenariat avec un organisme européen pour justement tenter d'identifier les personnes mortes en mer. Et c'est un bel article paru justement dans le Courrier international. Si vous voulez en lire davantage, c'est qu'il y a apparu durant la semaine du 19 au 25 février 2020.
Il y a toujours moyen de retrouver ça en faisant une recherche
en
ligne.
Oui, tout à fait. Et c'est la source, c'est la maison des reporters qui est à Dakar, Sénégal. C'est une maison qui se consacre exclusivement à l'information.
En fait, il y avait une école de journalisme à Dakar. Je dois raconter que j'ai quand même passé du temps en Afrique de l'Est dans certains moments de ma vie. Et quand tu parlais des femmes tout à l'heure, moi, j'avoue là, qu'au Mali, j'ai vu les femmes, hein, c'était elles qui tenaient l'économie du pays.
Et c'est
elles qui ont fait tomber le gouvernement à l'époque du dictateur Moussa Traoré, parce qu'elles avaient décidé, on fait la grève, on va plus travailler, et c'est en train de mettre à l'envers l'économie du pays.
C'est intéressant à entendre parce que mon défunt conjoint avait un contrat, il a été 7 ans au Maroc, et puis pour lui, l'économie passait par les femmes.
Oui, les femmes, elles sont résilientes, elles ont toute mon admiration. Oui. Hey, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là ce matin puis de nous parler de ce sujet qui est, à mon avis, très touchant et très important.
Oui.
Merci.
À la semaine prochaine.
Et puis, nous, de notre côté, on va parler encore de météo. Je disais tout à l'heure peut-être que Dame Nature était sur l'acide, mais non, aujourd'hui, c'est le 4-20, le 20 mai, le 20 avril. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours le 20 mai, le 20 avril, la journée du cannabis. Peut-être que Mère Nature en a fumé un bon ce matin. Et c'est pour ça qu'il fait encore froid. C'est encore un peu l'hiver. Cela dit, j'ai encore un petit peu de temps pour vous dire qu'après la pause, on va recevoir Raphaël Provost, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. On va parler de la journée de la paire impossible parce que CanalM, justement, est partenaire médiatique de cette journée. Et on va vous expliquer tout ça. Et puis, on va aussi avoir Louis Bernis qui va nous faire sa chronique sur l'insolite. Et moi, de mon côté aussi, je vous propose une entrevue avec les gens de Voix de la poésie et aussi on va parler de Vers l'avenir. Donc, c'est des participants, des jeunes qui participent à des concours de poésie, à la formation. C'est intéressant tout ça. Alors, aujourd'hui, donc, c'est en avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est le cas de dire. Puis, garde ton coach jusqu'à la Pentecôte. À tout de suite!
Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Vous avez peut-être entendu la promo. CanalM est partenaire de la journée de la paire impossible, journée qui aura lieu le 24 avril. Raphaël Provost est directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité qui organise cette journée. Bonjour Raphaël, bienvenue à l'émission.
Bon matin tout le monde.
Alors le 24 avril, on demande aux gens de porter des chaussures différentes. Pourquoi?
Pourquoi? C'est la question qu'on nous pose et qu'on espère qu'on nous pose quand on nous voit avec nos chaussures.
C'est toujours la bonne question.
Exactement, ça ouvre bien la conversation. L'objectif derrière tout ça, là, c'est de démontrer que même dans la différence, c'est possible d'avancer ensemble. Donc, porter des chaussures différentes, ça ne changera pas le monde, mais l'objectif, c'est de créer des conversations, des petits clins d'œil et que justement, on apporte un peu plus de respect dans ce monde qui, selon moi, en manque en ce moment. Donc, c'est un geste, oui, symbolique, mais qui apporte des conversations importantes et qui démontre justement que même dans la différence, avec deux chaussures différentes, c'est possible de marcher quand même.
Moi, ça m'a pris des années à être capable de mettre les mêmes paires de bottes parce qu'avant ça, je les mêlais toutes et ce n'était jamais de la bonne couleur ensemble, mais ce n'est pas grave. Alors, ce mouvement est lancé en partenariat avec PACT, soutenu par quand même des noms majeurs. On parle d'Aldo. Pourquoi donner une telle ampleur? On pourrait même parler d'une ampleur internationale à cet événement.
Je suis le premier un peu étonné de tout ça.
Ouais.
C'est né d'une idée toute simple il y a un an où on a mis dans une boîte de chaussures deux compétiteurs, Adidas et Nike. On a vendu cette paire impossible à C2 Montréal. On en avait une centaine d'exemplaires.
C2 Montréal qui est un organisme,
qui est un congrès sur l'innovation assez majeur à l'international et qui est basé à Montréal. Et parti d'une petite idée comme ça à un mouvement. Et quand on a approché des grandes entreprises, on s'est dit pourquoi pas, Aldo, L'Oréal et compagnie. Et les gens, après quelques minutes, nous ont dit « Mais l'idée, elle est fabuleuse. Mmh. Elle est nécessaire. » Et les gens ont embarqué. Donc, les gens ont embarqué avec beaucoup de facilité parce que l'idée est simple. Et ces gens-là, même si ce sont de grandes entreprises, aiment les idées simples. C'est souvent parti comme ça. Aldo, c'est la base, même chose. Et ces gens ont décidé d'embarquer. Mais il y a aussi de belles entreprises et des organismes québécois. Gem Atelier qui a embarqué, le Fonds de la purge LGBTQ+, vous, Canal Vue, ont embarqué
Canal
également.
Canal M.
Donc, on est bien contents.
Bien, on sait que le climat social actuel, là, c'est assez tendu. Je peux juste rappeler le fameux rapport de Francis Dupuy-Déry pour la FAE, la Fédération autonome de l'éducation, sur les discours hostiles, l'intimidation dans nos écoles. En quoi cette journée-là pourrait lutter contre le phénomène?
Mais on a fait le même constat de notre côté. Dans les deux dernières années, on a sondé plus de 30 000 jeunes dans les quatre coins du Québec. 65 % de ces jeunes-là nous ont dit être victimes d'au moins une forme de violence, que ce soit du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, tout y passe. Donc, pour nous, c'est une pierre de plus à l'édifice. On n'a pas la prétention de dire qu'on va changer le monde, mais on se dit que si on est capable de créer une journée où on a une conversation encore plus élevée autour de la lutte face à l'intimidation, bien, ça serait notre façon d'aider. Parce que ça n'a pas sa place, la violence, nulle part. Dans nos écoles, on voit que c'est un fléau. On en parle, on ne sait plus comment en parler pour justement mobiliser le plus de gens possible. Et c'est un appel, justement, du sol vers le haut,
ouais,
pour rappeler aux gens qu'on peut tous avoir un rôle à jouer dans cette lutte-là. On interpelle souvent nos grands leaders, mais je pense que ça peut aussi partir de la maison, de nos cours d'école, une action à la fois.
Je ne sais pas si la nouvelle première ministre, Mme Fréchette, va porter une paire impossible demain. On vérifiera.
On va lui envoyer l'invitation. J'aimerais ça. C'est un symbole qui est tout simple. Ouais. Hey, c'est pas compliqué à faire. On n'a pas besoin d'acheter une autre paire de chaussures. Mon ami Claudette Dion a même porté un talon haut puis une botte à semelle plate, puis était capable de marcher avec. Donc,
c'est pas impossible. Tant mieux pour elle. On va même le proposer à Marc Carney tant qu'à faire.
Voilà.
Au-delà du geste visuel, vous demandez aux gens de faire un don de 2 $ et de s'impliquer. Concrètement, comment ces contributions vont soutenir vos actions.
Vous vous rappelez peut-être l'époque où on avait les petites boîtes de carton dans notre cou, puis on se faisait déposer des sous-noirs
ah, mon Dieu, oui,
à l'Halloween, puis on se disait...
Mais non, Raphaël, tu peux pas te rappeler de ça, t'es trop jeune. Mais,
oui, au contraire, j'ai porté ces fameuses boîtes-là, puis on se disait tous, mais voyons, ils font quoi avec ces scènes-là? Et pourtant, ils ont fait de très grandes choses. Mais on s'est un peu inspiré de tout ça, donc avec les 2 $ qu'on va collecter, nous, on va vouloir faire quelque chose d'encore plus grand. Et on s'est engagé, parce que le contexte social et financier est difficile pour les organismes communautaires, 50 % de tout ce qu'on va ramasser, on le redonne à 5 organismes au choix des gens qui vont avoir donné 2 $ Si vous faites un don de 2 $ le 24 avril, on va piger peut-être votre nom, on vous contacte et on dit... Vous pouvez redonner 10 % de tout ce qui a été collecté à l'organisme de votre choix qui lutte aussi contre la haine, qui promue la justice sociale. Donc, on redonne, on veut créer un effet boule de neige. Moi, j'ai bien des qualités, mais j'ai le défaut de ne pas être bon pour demander de l'argent. Fait que je me suis dit, ben tant qu'à, je vais pouvoir redonner à d'autres personnes comme ça.
Très bonne idée. Merci beaucoup, Raphaël,
d'être
venu nous voir. Alors, je rappelle que c'est le 24 avril, 2 chaussures différentes, puis on peut faire le petit don de 2 $ On va sur le site d'Ensemble pour le respect de la diversité.
Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. Merci beaucoup.
Merci.
Bon, alors, voilà, est-ce que tu vas porter 2 chaussures différentes, Louis?
Oui, c'est simple, et ça va faire poser des questions, c'est simple d'en parler derrière.
Oui, j'aime l'idée. Ouais. En ce cas, Canal M est vraiment impliqué là-dedans, on est partenaire médiatique, et moi, je vous le promets, je ne serai peut-être pas ici au studio le 24, mais j'aurai 2 chaussures différentes. Ce n'est pas très difficile pour moi, parce que quand je ne suis pas réveillé, je mets n'importe quoi dans mes pieds. Allons-y, on va parler de robots humanoïdes qui battent des humains lors du semi-marathon de Pékin.
Et oui, c'est une première mondiale, pour ça qu'il faut en parler. On parle de technologie ici, des robots humanoïdes. Des robots qui ressemblent à des humains, avec 2 jambes, avec un tronc. Ils ont même des bras aussi pour assurer leur équilibre. De fabrication chinoise, le pays est à la pointe dans ce domaine, ont battu des humains lors d'un semi-marathon. C'était hier, tout simplement, dimanche 19 avril, à Pékin, faisant ainsi bien la démonstration de leurs capacités athlétiques et de leurs compétences en navigation autonome. En 2025, l'an dernier, je vous en avais déjà parlé. À l'époque, c'est insolite, c'était pour rire un peu des robots parce qu'il y avait eu des mésaventures. Il y avait des robots qui n'arrivaient pas du tout à terminer le parcours. Il y avait des batteries qui ne tenaient pas pour la distance. Cette année, c'est un peu plus sérieux. L'an dernier, le meilleur temps enregistré par une machine sur la distance avait été de 2h40. C'était l'une des rares qui avait terminé le parcours. À l'époque, c'était 2 fois plus que le temps mis par le vainqueur humain de la course. On était encore devant les machines. Or, cette année, plusieurs robots ont été sensiblement plus rapides que des athlètes professionnels, battant les vainqueurs humains de plus de 10 minutes. Les robots donc étaient rassemblés hier, ainsi que 12 000 hommes et femmes qui participaient au semi-marathon. Ils ont couru, on le précise, sur des parcours parallèles pour éviter qu'il y ait des collisions entre humains et robots, ce qui pourrait arriver. L'autre nouveauté par rapport à l'année dernière, près de la moitié des robots participants ont parcouru sans aucun problème cette course de 21 km de manière autonome, c'est-à-dire pas du tout guidés par télécommande, aucun humain derrière, ils étaient vraiment autonomes sur le parcours. Le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de cellulaire intelligent Honor, que on ne connaît pas mais qui est très répandu en Chine, a terminé la course en 50 minutes 26 secondes, c'est-à-dire tout simplement mieux que le record du monde qui avait été établi à Lisbonne le mois dernier par l'Ougandais Jacob Kiplimo, un humain, lui, très rapide. Eh bien, il y a désormais un robot qui est plus rapide que lui. Les équipes de Honor, en fait, le nom ne nous dit rien, mais c'est une filiale de Huawei, de la grande compagnie qui est plus connue, ont raflé les trois premières places du podium, de ce podium robotique, toutes avec des robots autonomes qui ont battu des records du monde. Il y avait quelques règles établies. Ça a donné quand même lieu à quelques images amusantes. Il y a certains des robots qui n'étaient pas encore tout à fait au point, qui couraient contre des murs, comme on peut voir parfois dans les jeux vidéo. Mais voilà, il faut souligner quand même qu'il y a un véritable essor de la robotique et des performances qui s'améliorent. Et ils étaient équipés de jambes de 90 à 95 cm pour imiter les coureurs humains qu'on peut voir aux Jeux Olympiques, par exemple. Et ils avaient le grand défi, comme expliquent les ingénieurs, c'est les systèmes de refroidissement, parce que courir 21 km...
Ils ont chaud aussi.
Oui, ils ont chaud aussi, exactement. Donc il y a des systèmes de refroidissement par liquide dans leur moteur qui permettent ces avancées-là. Donc voilà, l'humanité se fait dépasser par les robots dans certains domaines. Il y a des applications, on le voit malheureusement, militaires aussi, mais là, ça pourrait permettre des applications industrielles un peu plus vertueuses, parce que les ingénieurs expliquent que travailler sur des systèmes de refroidissement, ça pourrait permettre des applications dans le domaine médical, dans des domaines plus intéressants pour l'humain.
En tout cas, on va voir s'ils vont courir avec des paires impossibles, les autres aussi.
Ça, c'est pas sûr.
Oui, je rappelle, la paire impossible, c'est une activité pour lutter contre la discrimination, l'intimidation dans les écoles et un peu partout. Et CanalM participe à ça, c'est le 24 avril. Je reviens donc à la chronique insolite et on va parler donc de ce deuxième sujet qui est un poisson d'avril qui devient réalité.
Oui, ça c'est un peu n'importe quoi, mais bon, dans le monde du marketing, parfois, il faut faire parler de soi. Ouais. Et c'est pour ça que ça donne lieu à des produits comme celui-là. Oui, on parle du géant Ikea qu'on connaît tous, de l'ameublement et qui est connu aussi dans beaucoup de pays, pas seulement pour ses meubles, mais pour sa nourriture qu'on peut trouver, et notamment ces boulettes de viande qui sont très prisées et très
Il y en a même des véganes en passant.
Bon, voilà, ils s'adaptent à toutes les réalités. Eh bien, les boulettes de viande, l'annonce a été confirmée, il faut se pincer pour y croire, mais un suçon goût boulette de viande, qui n'était qu'une plaisanterie encore il y a 20 jours, va bel et bien apparaître. Le 1er avril, Ikea avait invité le public à imaginer un suçon en forme de boulette de viande. Il y avait une photo assez amusante publiée sur leurs différents réseaux sociaux. Eh bien, ça a fait beaucoup réagir et il y a eu un tel engouement, disent-ils, que nous n'avons pas pu résister à l'envie d'aller plus loin. En collaboration avec Choupa Choups, tout simplement, nous donnons aujourd'hui vie à cette idée ludique, une façon amusante de célébrer notre passion pour la gastronomie, de montrer qu'une simple blague peut se concrétiser et créer des liens inattendus, détaille-t-il. Ce suçon au drôle de goût, on va être curieux de goûter ça, est présenté comme une expérience ludique et inédite. Elle ne sera pas commercialisée, il faudra avoir un peu de chance pour pouvoir la goûter. Elle sera distribuée gratuitement aux clients à partir de juin prochain, dans quelques semaines. Elle sera produite en édition limitée à 1 million d'exemplaires. On devrait peut-être l'avoir au Canada, parce que certains pays sont exclus de cette opération. Par exemple, la Suède est exclue, le Japon, l'Inde, la Serbie, Roumanie, Slovénie, tous ces pays-là n'auront pas.
Ah non ?
Non. On imagine peut-être que les Suédois auraient bondi au plafond en goûtant un tel goût. Mais peut-être qu'ici au Canada, on a des Ikea, ici à Montréal, ici sur la rive sud. Pressez-vous au début du mois de juin, si ça vous intéresse, il y aura peut-être des Choupa Choups goût boulette de viande.
Aïe. Ben, c'est aussi pire que les fameux bonbons ou le chewing-gum. Alors, je pense que je vais me retenir, qui était au goût de... de prépuce. Vous n'avez pas vu ça? C'était dans les insolites, peut-être, à voir. Alors, faut le faire. Cela dit, merci beaucoup, d'avoir été là encore, Louis de Bernis. Et nous, on fait une petite pause pour une entrevue qui s'en vient. Avril prochain, le Diamant à Québec vibrera au rythme des mots pour la grande finale nationale du concours Les Voix de la Poésie. C'est un événement d'envergure où plus de 10 000 jeunes se sont illustrés cette année. Pour en parler, je reçois d'abord Ariane Tapp, qui est co-directrice générale de l'organisation Les Voix de la Poésie, et je reçois aussi deux participantes à l'autre programme qui s'appelle Vers l'avenir, qui est un événement qui est aussi de l'organisme Voix de la Poésie. Donc, il y a Hortense Léon du Collège Jésus-Marie de Québec et Naré Arménian qui est du Collège Sainte-Marceline de Montréal. Bienvenue à vous trois. Et merci d'être là. Alors, je vais commencer par vous, Ariane. Oui, ça fonctionne. J'avais l'impression que vous étiez gelée, mais ça va, la communication est bonne. Ariane, c'est une première historique que cette finale nationale qui s'installe donc au Diamant à Québec. C'est quoi l'importance de ce déploiement et qu'est-ce que ça représente, cette compétition qui, on le dit, non, depuis 2011, fait rayonner la langue française chez les jeunes?
Oui, ben en fait, c'est ça. C'est vraiment une compétition qui était toute petite au départ puis qui s'est agrandie là, d'année en année avec de plus en plus d'élèves qui partent dans chaque école. Puis ensuite, on a donc des épreuves de qualification. Donc, les jeunes envoient leur vidéo de récitation. Puis ensuite, c'est jugé, évalué donc par un jury de poètes canadiens-canadiennes. Et puis à ce moment-là, on a nos 9 finalistes, donc dans nos 3 sections, là, française, anglaise et bilingue, qui viennent ensuite donc réciter dans une ville différente canadienne à chaque année. Et donc, moi étant de Québec, je comptais bien que ça s'en vienne chez nous à un moment donné. Et donc, c'est cette année que ça se passe. Donc oui, au Diamant à Québec. Puis c'est ça, c'est vraiment un bel événement pour tout le monde.
On parle de 40 000 $ en prix et une participation massive. Hein? Donc, on sent qu'il y a vraiment un engouement réel. Comment expliquez-vous ça que la récitation de la poésie, on va se le dire, un art que certains pourraient juger classique, j'étais pour dire plate, mais bon, on va se garder ça entre nous, là. Ça réussit à captiver autant d'adolescents aujourd'hui?
Oui, bien, c'est vraiment notre mission, justement, d'un peu démystifier c'est quoi la poésie. Donc, c'est pas juste des alexandrins, c'est pas juste des vieux thèmes, etc. Donc, la poésie, c'est vivant encore aujourd'hui. On a des poètes actives aujourd'hui qui écrivent, qui parlent d'enjeux contemporains. Et donc, c'est ça qui peut venir aussi toucher, je pense, les jeunes. Donc, ça peut parler d'enjeux qui les touchent. Donc, peu importe leurs horizons, leurs intérêts, leurs valeurs, je pense que ça peut rejoindre tout le monde. Puis on s'entend des milliers de poèmes parmi lesquels choisir dans l'anthologie pour la récitation. Et donc, je pense que c'est vraiment facile de trouver quelque chose qui va nous accrocher puis qui va nous parler. Mais c'est sûr qu'on doit beaucoup aux enseignants et enseignantes qui embarquent un peu dans le bateau, qui relève un peu le défi de dire OK, oui, avec les voix de la poésie, je vais essayer justement d'intéresser mes élèves à la poésie, de leur faire voir un peu qu'est-ce que ça peut être. Puis c'est aussi pour ça qu'on a toutes sortes de ressources autour des différents concours pour explorer la poésie en vue notamment de participer au concours.
On va parler de l'autre volet, d'un autre volet qui existe et qui va peut-être, en fait, qui va nous amener aussi à faire intervenir nos deux autres invités. Mais d'abord, Ariane, on parle de ce projet qui s'appelle, ou ce volet qui s'appelle Vers l'avenir. C'est quoi l'objectif de ce programme spécifique par rapport au concours de récitation traditionnelle?
Ben, c'est sûr que le concours de récitation, c'est des poèmes qui existent déjà, donc qui ont été écrits par des poètes professionnels. Et donc, les élèves sélectionnent un de ces poèmes-là ou plusieurs pour la récitation. mais ils n'écrivent pas leurs propres poèmes. Mais donc, nous, on voulait laisser une place aussi aux jeunes qui écrivent, tu sais, qui ont leur propre voix, qui veulent dire leur, leur propre sentiment, etc. Donc, on avait quand même depuis quelques années un journal de poésie étudiante, un concours de poésie mensuel. Mais on s'était dit, ben écoute, les jeunes qui récitent, les finalistes, ils ont cet événement-là où ils ont des activités, ils participent à un concours sur place. Et donc, avec la Fondation McCall McBain, on a élaboré le programme Vers l'avenir, qui est justement pour les jeunes qui écrivent, qui veulent se perfectionner, qui veulent en apprendre plus sur le milieu de l'écriture, mais aussi de l'édition, puis de l'engagement dans le milieu littéraire. Et donc, c'est comme ça que ça a pris forme et ça a commencé en 2023.
Alors, je vais faire intervenir nos deux autres invités, Hortense et Naré. Vous faites partie des 16 jeunes sélectionnés à travers le Canada pour le programme de création. Donc, on parle de ce programme Vers l'avenir. Pour être choisi, il fallait soumettre un poème original au jury. Je commence par toi, Naré. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'écriture de ton texte et comment as-tu réagi quand tu as appris que tu étais choisi?
Ben, ce qui m'a inspirée, c'est tout simplement ce qui m'entoure. Ben, de ce que j'ai compris, écrire un haïku, c'est savoir condenser une émotion ou un moment précis. Alors, j'ai fait exactement ça. J'ai essayé de me concentrer sur des choses simples, mes souvenirs d'enfance, la nature, puis monter. Monter m'a vraiment inspirée.
Ah, je savais pas que tu avais fait un haïku. Là, je ne sais pas si c'est peut-être que ce n'est pas devant toi, mais si tu l'as devant toi, peux-tu nous le lire? C'est très court, un haïku. C'est toujours beau.
Oh, c'est un peu loin. C'est dans
c'est
notes.
Trop loin. Oh, c'est pas grave. J'aurais dû le prévoir d'abord.
C'est une série de haïkus.
Ouais. C'est 5 haïkus sur la nature, les saisons et des conversations et des moments que j'ai vécu.
Oui, comment tu as réagi quand tu as été choisie?
Puis, quand j'ai vu la notification, j'étais vraiment, vraiment stressée. Je n'étais pas certaine si j'allais être sélectionnée, mais comme avec le support de mes amis et ma famille, j'étais excitée, mais je savais que ça allait être une sorte de validation, car quand j'étais sélectionnée, j'ai su que c'était en façon... Non, désolée. C'est une sorte de confirmation que mes mots touchaient vraiment les gens. Et c'était vraiment... J'étais heureuse que j'allais participer à une opportunité incroyable et incomparable, vraiment.
Oh, on sent beaucoup d'émotions chez toi. Écoute, je vais aller voir Hortense maintenant. Hortense Léon, toi aussi, tu as été sélectionnée. Alors, parle-nous un petit peu du processus. Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, quand j'ai envoyé mes poèmes... Puis que j'ai reçu une réponse positive, ben j'étais vraiment très fière de moi. Pour moi, c'est vraiment un honneur que mes mots ont su toucher des gens. Puis quand j'en parle avec mes amis, ils m'ont toujours dit, oh, ben on se ressent dans tes poèmes. Donc, de pouvoir toucher les gens puis de sensibiliser sur des enjeux qui sont importants pour moi, ben
mais quels enjeux? Peux-tu m'en glisser quelques mots?
Un poème que j'ai écrit, c'est sur ma relation avec ma sœur. Et ben que de toucher les gens un peu sur cet enjeu-là de relations fraternelles, d'amour, de beauté de soi, ça me...
Et qu'est-ce que tu espères retirer des échanges que tu vas avoir? Parce que c'est quand même des tables rondes, d'aller travailler avec des auteurs établis, professionnels, auteurs, autrices, professionnels. Qu'est-ce que tu espères retirer de ça?
Participer à Vers l'avenir est pour moi une occasion précieuse de faire évoluer mon écriture. J'aimerais apprendre à approfondir mes textes, à explorer de nouvelles perspectives et à recevoir des regards critiques qui m'aideraient à grandir comme autrice. Le programme me permettrait aussi d'échanger avec d'autres jeunes passionnés de littérature, de comprendre leur démarche créative et de découvrir différentes façons d'aimer et de pratiquer la poésie. Et c'est pour moi une chance unique de bénéficier de l'expérience d'auteur pour perfectionner mon écriture.
De ton côté, Naré, qu'est-ce que le fait de rencontrer d'autres jeunes? Parce qu'on dit souvent que la poésie, c'est un exercice qu'on fait seul quand on écrit, c'est même solitaire. Là, tu vas rencontrer et partager d'autres jeunes, même des auteurs, autrices établis. Comment tu vois ça?
Ben, moi, je fais déjà partie d'un club de poésie à l'école avec mon enseignante, Madame Fillion, et mes amis. Puis, chaque vendredi, dans une classe, on lit des poèmes, on écrit des poèmes. Puis, ça me montre que quand t'es entourée de personnes créatives et sensibles et poétiques comme toi, ça t'amène à exprimer tes émotions plus facilement. C'est plus facile, c'est facile d'être créatif ensemble.
Hortense, la finale se déroule chez toi, hein, à Québec. En passant, je suis aussi de Québec, alors je suis très content de savoir que ça se passe dans mon coin où je suis né. Alors, quel message aimerais-tu lancer aux jeunes de ton âge qui hésitent parfois à s'exprimer par la poésie ou à monter sur scène?
Je suis convaincue que la poésie est un puissant moyen de communication et d'expression de soi. Mais pour moi, il est essentiel de se lancer et d'oser partager ses textes afin de ne pas nourrir des regrets plus tard. Nous avons tous quelque part quelqu'un qui croit en nous et nous encourage dans nos démarches créatives. Fait que la poésie, pour moi, c'est un domaine accessible à tout le monde. Mais le plus difficile, c'est simplement de faire le premier pas et d'oser.
Ouais, souvent, on écrit pour soi, mais on publie ou on fait lire hein, pour les autres. Hortense Léon, donc, et Naré Arménian. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom de famille, Arménian, c'est ça? Moi, j'aimerais aussi aller du côté à nouveau d'Ariane. Pour ceux, celles et celles là, qui souhaitent encourager ses talents, comment se déroule la soirée du 28 avril au Diamant? Le public peut aussi assister, hein, si je comprends bien.
En fait, ça, c'est...
Voix de la poésie, oui.
C'est un spectacle qui va avoir lieu... En après-midi, parce que c'est d'abord pour le public scolaire. Donc, on a plusieurs classes de la région, mais aussi de l'extérieur qui font le voyage et qui viennent voir la grande finale là, en après-midi au Diamant. Donc, on est complet, ce qui est un beau problème. on a réussi là, à intéresser tellement de monde.
Remplir le Diamant, c'est pas rien, là.
Oui, non, c'est ça. C'est en grande italienne. Donc, toute la salle va être vraiment pleine de jeunes et de poètes, etc. En revanche, le spectacle est disponible en direct. Donc, il va être diffusé en direct sur notre site web, lesvoixdelapoésie.ca. /en-direct et donc ce sera possible de le regarder de chez soi et même si on n'est pas disponible dans l'après-midi, ça va être possible de le regarder ensuite sur notre site et sur notre page YouTube, ça va être possible de le regarder.
Ouais, une bonne idée pour ceux, celles et celles là qui veulent encourager leurs proches mais qui sont loin, ça va faire de pouvoir le faire par le biais d'Internet. Très bonne idée cette captation. Un dernier mot sur l'avenir du programme Vers l'avenir. C'est un volet créatif donc qui est appelé. Est-ce que c'est appelé à prendre plus de place dans les prochaines éditions?
Bien, je pense que c'est vraiment bien balancé entre la grande finale et Vers l'avenir, au sens où on a autant d'activités pour un programme et l'autre, et puis ils vont vraiment être ensemble. Donc, les jeunes de autant la grande finale que de Vers l'avenir vont vraiment séjourner ensemble, ils vont passer des journées ensemble, on va voir plusieurs choses ensemble. Et donc, c'est vraiment un peu une fusion là, des deux programmes pendant 4 jours. C'est sûr que si peut-être éventuellement on a plus de financement pour inviter plus que 16 jeunes pour le programme Vers l'avenir, qui sait? Mais pour l'instant, on est très, très fiers de ce programme-là.
Bien, un gros merci à vous trois d'avoir été avec nous. Puis je rappelle donc que la grande finale des Voix de la poésie, ça se tiendra le 28 avril au Diamant. C'est un lieu qui a été fondé, je le rappelle, par Robert Lepage en 2019. C'était au cœur de la Ville de Québec, hein, la place Youville. Merci donc à Ariane Trapp, qui est co-directrice générale de Voix de la poésie. Voix de la poésie, oui, c'est ça. Et merci à Naré Arménian, qui est à Montréal. Et merci à Hortense Léon, à Québec. Merci à vous trois d'avoir participé à cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci. Eh bien, dans le M105, c'était 18 avril, une petite nouvelle ici. La Caisse des Jardins de Granby, Haute-Yamaska et la Fondation Mission Faune du Zoo de Granby officialisent le renouvellement de leur partenariat pour le programme Un Zoo pour tous. Cette entente vise à faciliter l'accès aux installations du jardin zoologique et pour les personnes issues de milieux vulnérables vivant avec des limitations fonctionnelles. Ce programme se poursuivra. Poursuivra son déploiement au cours des prochaines années afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires dans la région. Ce programme donc regroupe des initiatives d'accessibilité financière et physique ainsi que des outils adaptés pour les visiteurs-visiteuses ayant des besoins particuliers. Je rappelle donc Météo. Hein, Météo, c'est encore un peu... c'est ça. C'est un petit soubresaut de l'hiver. Hein, ça tousse un petit peu, mais ça va se réchauffer d'ici mercredi. Puis c'est peut-être pas une mauvaise chose pour les personnes qui craignent là, hein, les inondations ou la montée, la crue des eaux. Après la pause, on va parler du Scriptarium 2026 au Théâtre Denis Pelletier et on va parler aussi du Festival Jamais lu. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
T'ont menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore, telle est ma vie. On vise la pop, 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 c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter, on est venu là pour briller.
On vient d'entendre donc cette chanson « Briller Golden », hein, c'est la version française, et mon Dieu, tout un groupe de monde, Hunter X, Ariane Brock, Jeanne Gérosme, Clotilde Véry et K-pop Demon Hunters Cast. Je vais me permettre, avant d'aller à la prochaine entrevue, de revenir sur un sujet. Tout à l'heure, on parlait de cette sucette au goût de boulettes de viande IKEA. Et j'avais dit qu'il y avait aussi des sucettes qui avaient été annoncées récemment. C'est dans Libération. Puis je vais juste vous dire de quoi il s'agit, puis je pense qu'on va arrêter là parce que c'est un peu bizarre, des sucettes au goût de pénis. Bon, je voulais faire une pause parce que je voulais pas qu'on mêle les deux histoires. Le théâtre est souvent un miroir, mais avec le scriptarium, il devient un porte-voix direct pour une génération. Du 23 avril au 8 mai, à la salle Fred Barry, le théâtre, donc on parle du théâtre Denise Pelletier, c'est le théâtre Le Clou qui présente une œuvre façonnée par l'imaginaire de 22 adolescents. Tout commence par une question là, du mentor, Francis Fabrice Ville. Qu'est-ce qui est plus grand que nous? Et pour en discuter, donc, nous recevons le metteur en scène de cette édition, Emmanuel Frappier. Bienvenue à l'émission, Emmanuel.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bien, c'est un plaisir. Alors, on sait que vous avez vous-même foulé les planches du scriptarium comme interprète en 2019. Ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Et aujourd'hui, vous portez le chapeau de metteur en scène. Alors, comment votre expérience d'adolescent, là, votre propre expérience sur ce projet, influence-t-elle la manière dont vous avez accueilli les textes cette année?
Ben exactement. Pour moi, c'est vraiment une belle boucle et un beau cycle qui vient se fermer avec cette mise en scène-là. Je suis très heureux de mettre la parole des adolescents et des adolescentes sur les scènes au Théâtre Denise Pelletier et ensuite à la caserne à Québec. Et pour moi, ce qui est formidable, c'est vraiment d'avoir un accès privilégié à qu'est-ce qui préoccupe les ados, c'est quoi qui les tourmente, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils détestent. Puis il y a beaucoup de textes. C'est un appel de projet qu'on fait. Hein. Donc le projet, c'est on va dans les écoles. Et ensuite, on fait un atelier de médiation. Donc, les jeunes ont une thématique d'écriture et on a reçu à peu près 2000 textes. Et nous, on choisit 22 textes parmi les 2000. Et vraiment de voir à quel point les jeunes sont engagés politiquement, à quel point la frontière avec les États-Unis, ça les effraie. Puis, ils voient ce qui se passe chez nos voisins. Puis, vraiment, c'est un thème récurrent dans leur écriture là, de toute l'administration Trump juste à côté de nous. Fait que de voir qu'ils ont vraiment des choses à dire et qu'ils ont un réel point de vue sur le monde, malgré leur âge plus jeune.
Mais comment ne pas avoir de réaction avec ce qui se passe au sud de la frontière? C'est quand même inquiétant. Et puis justement, la question de départ qui était posée par Fabrice Ville, moi, ça m'a vraiment interpellé. Hein. Il parlait du dépassement de soi, l'esprit d'équipe, des thèmes qui sont chers au milieu sportif, mais quelque part, il me semble que cette réflexion-là, ça se transforme hein, sur la scène.
Exactement. Et oui, tu sais, Fabrice, on le connaît bien pour l'organisme qu'il a créé ou encore pour ses études en droit. Donc, c'est une espèce de mélange de tout son background. Et Fabrice a aussi une grande passion quand il était jeune. Il aimait beaucoup Dans une galaxie près de chez vous.
Oui.
Donc, on retrouve un peu cet univers-là, un peu onirique, un peu magique. Donc, nous, on dit aux jeunes, c'est comme si, au lieu d'envoyer un golden record, vous recevez quelque chose d'un autre monde. Qu'est-ce qu'on apprendrait sur une civilisation qui est plus grande que nous? Et vraiment, ça a donné toutes sortes de scènes où il y a des aliens qui interagissent avec des humains, où il y a un jeune homme qui découvre une capsule et cette machine-là va l'aider à devenir l'ado dont il rêve, donc à découvrir son corps de rêve. Fait qu'on se rend compte aussi que l'image a une place encore très importante dans la vie des ados. Qu'est-ce que je projette? Comment on me perçoit? Donc, la contrainte de base était vraiment le fun parce que ça nous permet de sortir de moi, mes parents, mon journal intime, mes problèmes à l'école. On est vraiment dans quelque chose de plus grand et on se rend compte que les jeunes ont un besoin de retour au collectif et au vivre ensemble qui clairement est amené aussi avec l'ère de la pandémie, hein. Le post-pandémie, quand on se rend compte que on a juste envie d'être ensemble et de faire du théâtre. Puis ce qui est le fun dans ce projet-là, c'est qu'ils ont un stage après ça, les 22 qui sont choisis à Montréal et à Québec. Et là, ils se réunissent tout le monde pour travailler leur texte avec des coachs professionnels. Et de voir la chimie d'équipe et le dynamisme là, qui se fait avec les jeunes, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, Gabriel Chapdelaine reprend les 22 textes et en fait un collage professionnel. Et nous, on l'apporte à la scène avec des interprètes professionnels, avec des concepteurs, conceptrices pro. Donc, c'est un projet écrit par les ados, mais monté après ça par une équipe professionnelle pour avoir le résultat le plus fidèle possible à leur pensée.
Emmanuel, c'est qui Gabriel Chapdelaine?
Gabrielle Chapdelaine, c'est l'autrice qui fait le collage. Fait que, on a vraiment 22 tableaux.
Donc, elle fait partie du groupe, là, c'est ça?
En fait, c'est une autrice professionnelle. Et elle prend les 22 textes et elle crée un fil rouge qui va vraiment venir lier ces 22 tableaux-là.
Oui.
Et elle les met en forme pour faire un seul spectacle et qu'on ne sente pas trop une scène, une autre scène, encore une fois une autre scène. Fait que ça s'arrange vraiment pour avoir un lien dans tout ça.
Pour que ça tienne la route, tout simplement, sur scène, hein, le point d'ancrage, ce que j'ai compris, c'est une balle de baseball géante tombée du ciel qui contient une multitude d'univers. Alors, vous avez choisi de traiter la mise en scène comme un fil d'actualité qu'on peut faire défiler sur son téléphone, hein, c'est ça?
C'est exactement ça. Puis avec Fabrice, moi, j'aimais bien le clin d'œil justement au sport. Avec Fabrice, il a fait beaucoup de basketball. Donc, nous, on a transposé ça dans le baseball. C'est donc une immense balle qui arrive sur le terrain. Et les quatre interprètes qui découvrent cette balle-là vont voir leur quotidien chamboulé par cet immense ovni-là qui tombe du ciel, en fait. Et donc, le match sportif amenait aussi pour nous tout le côté dynamique. Et comme vous parlez de réseaux sociaux, hein, on sait que c'est tellement facile de passer d'une vignette à l'autre. Ça dure quelques secondes, la capacité d'attention. Mais le sport nous permettait de rentrer dans ce côté-là très dynamique, très flyé, où on passe d'un univers à l'autre en une seconde avec un changement d'énergie, un nouveau beat pour commencer une nouvelle scène.
Comment la scénographie traduit-elle donc ce sentiment là que le monde, je vais prendre l'expression des jeunes, glitch ou déraille?
Oui, ben c'est exactement ça. C'est la scénographie, ce qui est le fun, c'est quand on vient ajouter tous les autres aspects. Donc, on est vraiment dans une scéno qui est un terrain de baseball. C'est donc il y a un gros tapis vert par terre avec les marbres, avec la cabine, des arbitres et même un panneau de projection sur le toit qui affiche le pointage. Et après ça, nous, avec les éclairages et avec le son et les costumes, on vient créer un univers un peu distorsionné. Donc, au début, ça commence dans tout ce qui est plus banal d'une game de baseball, les vraies musiques d'entrée des joueurs. Et plus le spectacle avance, plus on bascule dans un univers un peu parallèle où les aliens viennent prendre contrôle, en fait, de ce terrain-là, de ce terrain de baseball.
En fait, c'est un thème qu'on voit beaucoup, hein? Comment je pourrais dire? Le théâtre, on voit beaucoup de cette espèce de fantaisie, du fantastique, le théâtre de l'imaginaire. Et je pense que les jeunes sont pas étrangers à ça, hein?
Exactement. Je pense qu'ils ont un réel besoin de s'évader et de sortir du quotidien et de rêver grand.
Oui.
Moi, ce que j'ai aimé travailler avec eux, c'est de vraiment avoir accès à leurs préoccupations et à leur intelligence. Hein. Souvent, je trouve qu'on dit vite « Ah, les jeunes de nos jours, ah, dans notre temps, ah, mon Dieu, ils sont juste sur leurs écrans. » Mais non, quand on prend le temps de les écouter, quand on prend le temps de leur parler comme des adultes, c'est là qu'on voit réellement tout ce qu'ils ont à dire et tout le potentiel qui les habite. Ces jeunes-là sont très inspirants pour moi. Et moi, mon but, c'est toujours de leur faire plaisir avec ce spectacle-là. Ça me dérange pas que personne aime ça, mais je veux que j'ai besoin que eux se sentent concernés par ce spectacle-là.
Ah, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, ce que vous dites, Emmanuel, parce que moi, du haut de mes bientôt 65 ans, je refuse de dire dans mon temps c'était mieux. Je dis pas
exactement.
Ça. Je refuse. Non, puis si ça me vient en tête, là, je me donne une tape derrière la tête pour pas le faire.
Exact. Puis c'est tellement important d'évoluer avec son époque et de rester ouvert à tous les changements. Puis c'est vraiment le fun, cette cohabitation-là entre les ados, les adultes, les personnes plus âgées. Pour moi, il y a quelque chose de très riche là-dedans qu'il faut valoriser en tant que société.
Bon, j'écoutais tantôt, quand vous mentionnez un peu c'est quoi les thèmes, qu'est-ce que les jeunes voient, leurs préoccupations. J'ai aussi l'impression, est-ce que je me trompe, que ce genre de théâtre qu'on va voir au Scriptarium, ça s'inscrit aussi dans le Hope Punk. Est-ce que c'est un thème qui vous dit quelque chose, ça?
Non, je connais pas.
Ah, bon, d'accord, excusez-moi, je ne voulais pas amener un sous-genre littéraire, culturel, là, où on n'est pas de défaitiste, mais on voit que c'est noir, mais on essaie de trouver de l'espoir. Est-ce qu'on voit de l'espoir?
Oui. Oui, bien, je pense que... Oui, non, mais c'est exactement ça. Puis ça se termine, le dernier tableau, c'est un alien qui arrive sur scène et qui rentre vraiment en connexion avec une jeune immigrante qui est au Brésil et qui est maintenant au Québec. Et les deux se comprennent dans leur façon d'agir avec le monde et dans leur façon d'être seuls, des fois chez eux, et de s'ennuyer de leur famille, de leurs amis. Donc, ça finit vraiment sur une belle note de sensibilité et d'ouverture au monde encore plus grande, de se rendre compte que même un alien et un humain peuvent créer un lien qui est intime et amoureux et généreux. Fait que ça finit en douceur et en subtilité quand il y a effectivement beaucoup d'autres scènes qui sont très dynamiques, avec des gros éclairages, la grosse musique. La finale est toute en subtilité et en finesse.
En tout cas, ça a l'air vraiment le fun, tout ça, Emmanuel Frappier. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci pour votre temps, puis merci vraiment de faire rayonner la culture.
Bien, merci.
Au plaisir.
Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non. Je côtoie la démence. Je tête le sein du diable qui m'allaite. J'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais. C'est un vrai plan séquence. Les voix à qui on a donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, dinde, patate, c'est fini. Le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime. on assure ta descendance. La vie c'est une grosse joke, une plaisanterie, t'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut, j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demain.
Les louanges et sa chanson « Je confirme ma présence ».
Le Festival Jamais lu célèbre son quart de siècle au Théâtre aux Écuries, ici à Montréal. Et pour cette édition charnière, un nouveau visage prend les rênes de la direction artistique. Nous recevons Éric Noël, qui succède à la fondatrice Marcel Dubois, pour insuffler sa propre vision à ce laboratoire de la parole émergente. Allô Éric, bienvenue à Canalem.
Allô, bon matin.
Ah, c'est le fun de te parler à nouveau, Éric. Tu arrives donc à la direction artistique au moment précis où le festival fête ses 25 ans. Comment tu abordes cette transition?
Avec beaucoup de joie. Un peu de stress aussi, mais ça va très. Non, ça se passe bien. On est à moins de deux semaines du début, puis on est vraiment dans le dernier tourbillon des préparations, mais ça se passe vraiment, ça se passe très bien.
Ah, qu'est-ce qui, dans les textes reçus cette année, là, ça t'a sauté aux yeux?
Ben, c'est ça, en fait, la ligne éditoriale « Réparer nos transmissions » est venue très naturellement, parce qu'il y avait évidemment cette idée-là de transmission au jamais lu qui se déroulait. Donc, il y avait une transmission très concrète à la direction, puis il y avait ce quart de siècle qui nous amenait sur cette réflexion de regarder un peu en arrière, puis de voir vers quoi on se projette. Puis ça s'est confirmé vraiment quand j'ai lu les textes, parce qu'on a reçu à peu près 180 textes cette année.
Wow.
Donc, il y avait, oui, vraiment, c'était un record. Là. On a reçu beaucoup, beaucoup de propositions. Puis, dans tout ce que je voyais, il y avait vraiment cette réflexion dans la relève qui se questionne sur la suite du monde. Puis souvent, on avait coutume d'avoir, depuis quelques années, évidemment, des récits des fois un peu déprimants ou un peu tristes ou un peu qui sont assez angoissés par rapport à la suite du monde. Donc oui, il y a ça, mais il y a aussi vraiment ce désir des fois de se dire, ben attends, là, on est dans un monde qui perd tellement ses repères. À quoi je m'accroche? D'où je viens? Qu'est-ce que je veux laisser derrière? Qu'est-ce que je veux transmettre? Donc, il y avait vraiment cette question-là. Beaucoup de textes, par exemple, sur la question d'avoir ou pas des enfants, sur la question, évidemment, des immigrants, c'est-à-dire des personnes déracinées. Donc, qu'est-ce que je laisse en héritage? Qu'est-ce que j'amène de moi sur un nouveau territoire? Donc, il y avait plein de questions comme celle-là qui parcouraient l'édition. Donc, c'est devenu un peu une évidence là, qu'il fallait parler de ça. Puis, étrangement aussi, il y avait comme un retour à des questionnements, j'ai envie de dire, très personnels, très intimes. Donc, il y avait une certaine. C'est très beau, en fait, ce qu'on voyait dans les textes des jeunes auteurs où tout à coup, les gens se questionnaient vraiment sur ce qu'ils veulent apporter dans le monde. Puis, je trouvais ça assez inspirant de parler de ça.
J'ai l'impression, parce que je dois dire que je vois beaucoup de théâtre, beaucoup de spectacles de par le travail que je fais, et j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de mouvement où les gens en ont assez du grim dark, qu'on appelle en franglais, et s'en vont vers le hope punk. Je me permets encore de sortir cette expression-là, mais oui. Est-ce qu'on voit ça dans les textes qui sont soumis? Le hope punk, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sous-genre littéraire là, où les gens refusent de tout voir en noir puis disent qu'il faut qu'il y ait de l'espoir un peu quelque part. Là.
Oui, c'est vraiment présent. Il y a quelque chose de... Oui, il y a, en fait, dans les textes, je pense à des textes de Sarah Carrel Chiasson qui est 493 km, au texte de Lirael Dauphin, qui sont des voix, en fait, la comédie revient.
Oui.
C'est des comédies souvent noires qui prennent leur source dans des fois un désespoir, en fait, dans quelque chose de « mon Dieu, ça va donc bien mal, ben, puis face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis il y a effectivement cette réponse-là qui est « écoute, il faut s'unir, il faut se réunir ensemble, il faut être capable d'en rire, puis il faut surtout proposer des solutions en tête de box. » Fait qu'il y a ce côté-là, effectivement, où le party punk, malgré la douleur aussi, puis la vraie, après, il y a une responsabilité aussi, puis c'est pour moi, c'est la grande force des auteurs de théâtre aussi, c'est-à-dire que ça nous, le genre le théâtral nous permet aussi quand même de réunir des gens, de parler de choses qui sont importantes, mais on a du temps, on a une heure et demie, deux heures pour développer une pensée. puis de développer quelque chose, alors que sur les réseaux sociaux puis dans le monde actuel, on est vraiment dans une dynamique du commentaire qui permet pas de nuance, qui permet pas. Donc c'est soit tout noir, tout va mal, soit au contraire dans une espèce d'illusion, alors qu'en théâtre, on est capable, les auteurs nous amènent dans ces nuances-là, où même si le monde va mal, puis oui, on le voit là, effectivement aux nouvelles, ça devient un peu presque cliché d'en parler, mais OK, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis je trouve que dans les propositions théâtrales, on peut réfléchir justement à aller un petit peu plus loin dans ces réflexions-là. Fait que oui, il y a de l'espoir, puis c'est une édition assez foisonnante, puis assez... qui n'est pas désespérée du tout. C'est-à-dire que oui, il y a des sujets graves, oui, il y a quelque chose de sérieux, mais c'est des projets vraiment déjantés avec beaucoup d'imaginaire, puis beaucoup de pistes de solutions, en fait.
Comment tu as opéré, donc, ces choix? Parce que 180 textes, tu en as retenu combien?
Ben, j'en ai retenu beaucoup. Pour le 25e, on a fait une grosse édition. Donc, en fait, au Jamais lu, il y a toujours des lectures théâtrales. Donc, je le rappelle, là, pour ceux qui ne connaissaient pas le festival, mais le Jamais lu, c'est vraiment des textes qui n'ont jamais été lus, puis c'est des lectures. Donc, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. On est vraiment, il y a une mise en lecture, il y a un travail qui est fait avec des comédiens, mais on est vraiment c'est le texte qui prime. On est au lutrin majoritairement, puis tout ça. Puis donc, il y en a 13 cette année de ces mises en lecture-là. Puis après ça, il y a des événements satellites. Là. Il y a une grande journée d'ouverture, un cabaret de clôture. Mais j'ai sélectionné 13 textes, donc qui sont vraiment le cœur de la programmation. Comment j'ai fait? C'est une bonne question. Ben, c'est-à-dire que d'abord, je lis tout. Je passe à travers les propositions. Il y a des choses, évidemment, qui se dégagent. Puis ce que j'ai fait cette année, c'est que moi, c'est ma première fois. Fait que ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'entourer quand même. Donc, j'ai fait un premier tri, puis j'ai envoyé une quantité de textes ensuite là, de ce premier tri-là à deux autrices, donc à Émilie Monet et à Marie-Louise Bibiche-Moumbou. Puis ensemble, à trois, ben on a fait une rencontre, puis on a discuté de cette espèce de noyau-là de textes. Puis là, ben de ces discussions-là, moi, après ça, j'ai fait mes choix finaux là, pour être sûr que je voulais être sûr de ne pas avoir d'angle mort, des choses que moi, je vois pas. Puis ça m'a vraiment orienté pour être capable de créer une programmation. Après ça, ben on veut une programmation qui est différente, qui est équilibrée. Donc des fois, c'est pas tant des choix. Des fois, c'est déchirant, mais des fois, c'est juste aussi on veut être sûr d'avoir des projets qui se différencient, qui sont pas les mêmes, puis avoir vraiment. Moi, mon rôle, c'est pas de choisir juste ce que j'aime, c'est de choisir aussi qu'est-ce qui est représentatif de ce qui s'écrit en ce moment. C'est quoi le pouls des auteurs, puis qu'est-ce qu'ils demandent à être dit. Puis il y a toujours ça au Jamais lu, là, cette notion d'urgence. C'est-à-dire qu'on veut sentir que ces textes-là ont besoin d'être entendus, puis qu'ils ont besoin d'un public. Fait que c'est ça qui guide mes choix.
Et cette année, vous sortez des murs du théâtre, hein, chez Jamais lu. Ouais. Vous avez un événement qui s'appelle Jamais lune au parc Frédéric Bach.
Oui, c'est ça. En fait, la première journée, le 1er mai, c'est la grosse journée, en fait, où on fête vraiment le 25e anniversaire du Jamais lu. Donc, je vais revenir un peu à Jamais lune, mais juste avant, en fait, pendant toute la journée du 1er mai. Donc ça, c'est un spectacle là, vraiment anniversaire incroyable, de 10h à 18h30, là, à peu près. Martin Fauché met en lecture 24 textes avec des co-metteurs en scène qui l'aident, là, mais il met en lecture un grand spectacle, 24 extraits de textes qui ont marqué l'histoire du Jamais lu du dernier quart de siècle. Donc, ça s'appelle un quart de siècle au quart de tour.
Ouais, c'est
donc,
ça,
il faut prendre son billet pour ça. Là. Ça, c'est l'événement. Là. Ça va être avec une distribution, en plus, là, vraiment incroyable là, de d'acteurs. Des gens comme Danny Boudreau, Sarah Bertion, Manique Bergeron, Lynn Dentiste. Vraiment... des super bons acteurs qui vont jouer tous ces extraits-là, avec des surprises, évidemment. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Puis l'idée, c'est vraiment de traverser donc, l'histoire de la dramaturgie moderne, finalement, là, en traversant ces 25 années-là. Puis après ça, ben, le soir, à 21h, là, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, parce que dans la journée, il faut réserver son billet, mais le soir, on n'a jamais lune, qui est un cabaret, je l'appelle mon cabaret de sorcière. C'est juste des femmes et des personnes non-binaires que j'ai conviées à venir... dire à la lune des choses qu'elles n'ont jamais dites. Donc, l'idée, c'est de révéler des choses, des confessions, des secrets. Donc, c'est en forme cabaret. C'est des 5 minutes, à peu près 5-10 minutes chacun, chacune. Et on est au Parc Frédéric Bach à la pleine lune, parce que le 1er mai, ben, c'est un soir de pleine lune. Et donc, on prie tous les dieux là, pour que le beau temps soit avec nous. Puis, ben, on réunit, là, il y a Xenia Gould, il y a Gabriel Chapdelaine, Soleil Launière. Donc, il y a de la musique aussi. Oui. Donc, c'est musique et texte. Puis c'est moi qui va animer, qui va orchestrer un petit peu ce grand événement-là. Il va avoir un bar, il va avoir des trucs à grignoter, puis ça. Puis on a des autobus qui partent des écuries pour ramener les gens, puis sinon les gens peuvent venir aussi par leurs propres moyens. Puis ça, ben, c'est ouvert vraiment à tout le monde, c'est gratuit. Ouais.
À ne pas manquer, ça semble intéressant. Écoute, Éric, j'aimerais qu'on parle de toi rapidement. Je sais que c'était pas prévu, mais c'était plus fort que moi. Grosse année, tu viens de remporter le prix littéraire du gouverneur général, catégorie théâtre pour la pièce « Ses regards amoureux de garçons altérés ». Comment tu accueilles ce prix?
Ben, écoute, ça a été... C'est particulier parce que ce texte-là, c'est un texte très, très personnel. Mm-hmm. Que moi, quand je l'ai écrit, il y a une dizaine d'années, puis ça a pris 10 ans avant qu'il soit monté et publié. Donc moi, pour moi, c'était comme un... C'est comme une espèce de cadeau à rebours. Là. C'est comme ça vient avec un... 10 ans plus tard, il y a comme tout ça qui arrive. Il y a une production magnifique au Prospero qui est repris là au festival.
Qui était super, avec Gabriel, oui.
Oui, qui est repris au FTA en juin. Puis là, ben, le prix du gouverneur général, c'était vraiment pour ce texte-là. En plus, moi, je ne m'attendais pas du tout à gagner ce genre de prix pour un texte aussi intime, aussi cru. Ça a été vraiment... Un bonheur.
J'imagine.
Oui, vraiment.
Tu disais donc que ça va être repris au FTA?
Oui, c'est repris au FTA. Donc, quatre soirs au FTA. Mais là, on était dans la petite salle du Prospero. Là, on va être dans la plus grande, mais on recrée le même dispositif, là, parce que c'est un dispositif scénique très, très particulier. Là. C'est-à-dire que Gabriel Zabot, qui est extraordinaire dans cette pièce, il est comme coincé, si on veut, là, entre un plafond qui est très, très bas et un plancher qui est surélevé. Et donc, on recrée ça, puis on recrée cette espèce de petite boîte qu'on avait dans le petit Prospero, mais on veut le faire un petit peu pour un peu plus de monde, parce que le petit Prospero, c'est 40 personnes. Là, on va avoir à peu près 90 personnes qui vont pouvoir le voir. Et donc, on rejoue ça là, dans le cadre du FTA. On est vraiment content d'être... cette année, ça va permettre à vraiment plein de gens de le voir, puis au spectacle de continuer sa vie. Oui.
Ben Éric Noël, c'est directeur artistique du Festival Jamais Lu. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici à Canadem.
Un bonheur, merci d'avoir pris le temps. Puis j'invite vraiment tout le monde là, à venir au festival. On a une passe pour trois lectures. Il y a des prix étudiants. C'est vraiment pas cher. C'est un moyen d'avoir le théâtre de façon très accessible, le Jamais Lu, là, de pouvoir voir beaucoup, beaucoup de choses. Puis venez découvrir là, ce qui va animer un petit peu les scènes dans les prochaines années.
Mais merci beaucoup. À la prochaine.
Bye bye.
Alors, avril, hein, c'est dans le soir du 18 avril. Avril marque le mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson, une occasion pour Parkinson Québec de mettre en lumière l'importance du bris de l'isolement chez les personnes touchées. Les activités organisées visent à favoriser le maintien des liens sociaux et à informer la population sur les réalités quotidiennes des patients. Plus de 35 000 personnes sont actuellement diagnostiquées au Québec, une statistique qui continue de croître. La maladie de Parkinson est un trouble neurodégénératif qui affecte principalement le système moteur, entraînant des tremblements, une rigidité musculaire et des troubles de l'équilibre. Petit rappel météo, donc ça va continuer d'être un peu frisquet aujourd'hui dans l'est du pays, mais rassurez-vous, ça va se réchauffer dans les prochains jours. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la régie, merci à Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche, qui sera de retour demain. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Prochain rendez-vous pour moi, c'est à 17h aujourd'hui, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va parler, entre autres, de l'ONU qui déclare que le Canada, c'est peut-être plus le paradis pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Entre autres sujets, donc il y en aura beaucoup d'autres à cette émission à 17h. Merci encore, à la semaine prochaine!